plus grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Najat Vallaud-Belkacem, nous vous retrouvons donc avec Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jakubicine de LCI. Je voudrais qu'on parle du rôle de l'enseignement de l'histoire. Il en a été beaucoup question au cours du débat sur la primaire à droite. Et François Fillon a beaucoup insisté sur la nécessité d'enseigner un récit national. Ça ne vous a pas vraiment plu. Qu'est-ce que vous contestez dans cette définition ?
Ça ne m'a pas plu d'abord parce que c'est une extraordinaire façon d'éluder les vrais sujets de l'éducation. Que de s'arrêter sur la question de l'enseignement de l'histoire, qui, comme chacun sait, l'histoire, elle est enseignée, hein, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il n'a jamais été question de faire disparaître je ne sais quel personnage historique des programmes, puisqu'il suffit de feuilleter n'importe quel manuel pour se rendre compte que Clovis et Charlemagne et Jeanne d'Arc et Voltaire et Rousseau sont tous dans les manuels scolaires et tous dans les programmes. Donc, au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de mensonges. Tout de même, asséner comme ça sur un plateau de télévision devant 8 millions de téléspectateurs, qui servent à quoi ? À dresser un écran de fumée pour éviter de parler de l'essentiel, et notamment l'essentiel. Comment fait-on, monsieur Fillon, pour enseigner l'histoire à laquelle vous êtes si attaché en supprimant autant de postes d'enseignants ?
On va y revenir, mais est-ce que l'histoire enseignée à l'école doit contribuer à forger une identité française ? La Troisième République l'a fait pendant longtemps. Est-ce qu'il faut effectivement peut-être un peu orienter le récit national pour éduquer les enfants ou pas ?
Mais de ce point de vue, alors si la question intéresse sérieusement, et je ne doute pas qu'elle vous intéresse vraiment, je vous invite à regarder, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, et notamment une chercheuse qui s'appelle Françoise Lantôme, j'en profite pour lui faire de la pub parce qu'elle vient de l'Université de Lyon, qui a récemment sorti une étude inédite sur ce que nos élèves, nos collégiens, nos lycéens, retiennent de l'apprentissage de l'histoire au cours de leur scolarité. Et c'est très surprenant, vous allez voir, parce que loin de tous ces débats un peu fumeux, vous vous rendez compte que oui, il y a une identité commune qui se crée, collective, qui se transmet de génération en génération, où en effet, les élèves sont capables de vous dire quelles sont les grandes dates, les grands personnages,
quels que soient leurs milieux sociaux, quelles que soient leurs origines.
Oui, globalement, oui, absolument, quelles que soient leurs origines et quels que soient leurs milieux sociaux. Donc, je crois, si vous me permettez, qu'il faut d'abord être très humble et rendre hommage à nos enseignants d'histoire qui font ce travail
au quotidien. Finalement, le récit national. Vous n'êtes pas contre l'idée d'un récit national.
Mais le récit national au sens où... Oui, nous appartenons tous à un même pays et donc nous devons bien connaître son histoire, mais y compris, au-delà de son histoire, l'inscription de ce pays dans le monde qui l'entoure, pour en être fier et en même temps pour connaître aussi ses moments d'ombre et ses zones d'ombre. Oui, ce récit-là, évidemment, c'est ce que fabrique l'enseignement de l'histoire. Et c'est pour ça que nous y sommes si attachés. Et j'ajouterai une chose, parce que tout cela est rarement commenté. Avez-vous simplement remarqué que pendant ce quinquennat, en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, j'ai systématisé à l'école le fait que les élèves participent aux cérémonies commémoratives pour que, au-delà du travail d'histoire, le travail de mémoire soit aussi réalisé. Tout cela contribue à forger une unité nationale.
Alexis Brézé.
Ce que mettait en cause François Fillon, c'était aussi finalement la réduction de l'approche chronologique dans l'histoire par rapport à une approche thématique. Et il dit finalement, si on les enfants ont pas la chronologie, ils s'y retrouvent pas.
Oui, alors ça, c'est marrant parce que vraiment, ça fait des mois et des mois que cette idée circule qui ne correspond à rien. Mais enfin, vraiment, avez-vous des enfants
C'est vrai que dans les manuels,
soient...
oui, alors maintenant, ils sont plus grands, c'est vrai que dans les manuels, ce sont des manuels qui sont quand même toujours des manuels très thématiques. C'est plus dans un ordre chronologique. C'est souvent, ça couvre plusieurs périodes à la fois, plusieurs continents à la fois. Les chapitres sont plus thématique que chronologique, c'est un fait. Mais c'est-à-dire une conception de l'histoire, notamment universitaire, qui se défend.
Parce que, comme je pense qu'un certain nombre de téléspectateurs se demandent ce qu'il y a derrière tous ces débats, soyons clairs. On n'a absolument pas remis en cause l'apprentissage chronologique de l'histoire, cela va de soi. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que vous apprenez à l'école primaire l'histoire, au sens large, c'est-à-dire que vous passez en revue un certain nombre de périodes historiques, et ensuite, il arrive en effet qu'au collège, parce que vous avez une maturité plus élevée, vous reveniez sur certaines de ces périodes historiques pour les approfondir. Donc c'est ça qu'entendent ceux qui protestent qu'on aurait remis en cause la chronologie dans l'enseignement de l'histoire. Non, c'est bien naturel, évidemment, d'avoir, abordé la guerre de 100 ans à l'école primaire et d'être amené à pouvoir y revenir pour entrer davantage dans les détails, par exemple, en classe de 5e, quand on aborde Jeanne d'Arc, justement, pour aborder Jeanne d'Arc, plus précisément. Il n'y a rien de choquant dans tout cela. Et on ne remet absolument pas en question l'apprentissage chronologique de l'histoire.
Ce que François Fillon souligne, met en avant en tout cas, c'est qu'il dit qu'il y a comme une connotation de repentance par rapport au comportement de la France à travers les siècles. Oui. Et ça, il faudrait en finir, donner la fierté de la France aux élèves plutôt que cette repentance, cette idée de repentance permanente.
Alors ça, c'est en effet, ça c'est un débat qu'on a entendu au moment où nous avons révisé l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire, car faut-il rappeler que nous avons aussi fait ce travail-là qui était considérable pour redonner plus de logique dans la progressivité des apprentissages aux élèves pour que les cours se passent mieux et soient mieux acquis tout simplement par nos élèves. Donc j'en reviens à ce débat qui a vu le jour à ce moment-là autour des cours d'histoire, qui consistait à dire, mais dans les nouveaux programmes, vous en faites trop autour de telles pages sombres de l'histoire de France et vous nourrissez la culpabilisation permanente. Enfin, pardonnez-moi, mais l'histoire telle qu'elle s'enseigne n'a pas à prendre parti, n'a pas à être idéologisée, elle doit se raconter telle qu'elle s'est produite. Et donc, lorsqu'il y a eu des pages sombres dans l'histoire de France, bien sûr qu'il faut les raconter aux élèves. Comment voulez-vous sinon, pardonnez-moi d'être un peu taquine, mais comment voulez-vous apprendre aux élèves que notre pays a décolonisé des territoires si vous ne leur avez pas d'abord appris qu'on les avait colonisés? Comment voulez-vous rendre nos élèves fiers du fait que notre pays a aboli l'esclavage si vous ne leur avez pas d'abord expliqué qu'on avait esclavagisé?
Peut-être qu'on peut expliquer que l'esclavage n'a pas commencé avec la France.
Mais personne n'a dit cela, ça n'est pas écrit dans les programmes
d'histoire. Je ne dis pas qu'on affirme cela, mais est-ce qu'on enseigne l'histoire de l'esclavage dans son entièreté ou exclusivement la partie du comportement de la France par rapport à l'esclavage, qui en effet a été totalement négatif, je suis bien d'accord avec vous.
Bien évidemment qu'à partir du moment... En fait, si vous prenez les programmes d'histoire aujourd'hui, vous verrez qu'à l'école primaire, encore une fois, on s'adapte aux âges, hein, ce qui est naturel. L'école primaire, on parle surtout de la France. Donc c'est vrai que c'est de la France que l'on parle à l'école primaire. Mais qu'à partir du collège, c'est la France dans le monde. Et que donc, un certain nombre de sujets, y compris celui-là, l'esclavage, vont être abordés, y compris dans leur dimension internationale et mondiale. Et donc, l'histoire qui se raconte grâce au programme à nos élèves est l'histoire telle qu'elle a été écrite par les historiens, qui sont les seuls bien placés aujourd'hui, d'accord, pour nous dire ce qui s'est passé par leur travail.
Dans Le Monde, le journal Le Monde, il y a une tribune qui, en 2015, a été publiée par un collectif d'enseignants d'histoire et de géographie, qui écrivent ceci: les enseignants d'histoire-géographie n'ont pas pour vocation de fabriquer la loyauté nationale de leurs élèves. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Je pense que les enseignants d'histoire-géographie ont pour mission et pour vocation d'apprendre aux élèves l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, de façon la plus neutre possible, sans porter de jugement. D'ailleurs, que penseriez-vous si vous aviez un professeur à contrario dans une salle de classe qui commençait à porter des jugements politisés sur telle ou telle partie de l'histoire? Vous seriez le premier à protester et à ne pas l'admettre. Donc, on attend des professeurs d'histoire que, dans la plus grande des neutralités, eh bien, ils racontent l'histoire telle qu'elle a été définie, déterminée par les historiens.
Christophe Jacobicine.
Une autre opposition du peut-être désigné ou pas François Fillon à la primaire de la droite, c'est l'idée de faire porter des uniformes aux enfants, notamment de l'école primaire. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée pour créer aussi, là encore, une identité, une sortie d'appartenance à une communauté?
Non, mais c'est... Ça fait partie de ces espèces de serpents de mer qui reviennent régulièrement dans le débat éducatif, mais qui sont d'une telle pauvreté. Mais enfin, franchement, c'est quoi le sujet derrière?
Mais ça marche en Grande-Bretagne.
C'est d'assurer la mixité sociale, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre nos élèves liés à au portefeuille de leurs parents.
Notamment la tyrannie des marques et tout
Enfin, est-ce que vous croyez que le vrai sujet, c'est la tyrannie des marques? Ou est-ce que le vrai sujet, par hasard, hein, ce ne serait pas la façon dont les pouvoirs publics investissent davantage dans les élèves qui partent avec un handicap social plus important?
Mais là,
et donc
pas
dans
l'autre.
Les établissements scolaires qui partent avec plus de difficultés sociales que les autres, c'est-à-dire ce que nous faisons depuis 5 ans.
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, mais ne parler que de l'un, comme le font les candidats de droite, éluder systématiquement l'autre. Pardonnez-moi, mais avez-vous entendu un seul propos dans le débat éducatif qui les a opposés sur l'éducation prioritaire, sur la nécessité d'assurer plus de mixité sociale dans les établissements, sur les bourses aux élèves ou aux étudiants, que nous n'avons cessé de décupler? Avez-vous entendu un mot là-dessus de la part des candidats de la droite? Donc qu'ils ne me fassent pas croire qu'avec le port de l'uniforme, ils vont résoudre l'ensemble des inégalités sociales à l'école.
Alors, c'est choquant par ailleurs, le port de l'uniforme. Est-ce que ça vous choquerait, même si ce n'est pas la raison principale, est-ce que ça vous choquerait qu'on l'impose?
D'abord, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin dans la reconnaissance d'une certaine autonomie aux équipes pédagogiques des établissements. C'est ce que nous avons fait, par exemple, dans le cadre de la réforme du collège. Donc, que des choses puissent être expérimentées ici ou là sur le terrain, je n'y vois pas d'inconvénient, si tant est que les équipes pédagogiques de l'établissement, pour bien répondre aux besoins...
Estiment que c'est nécessaire quand on est du contexte, par exemple.
Estiment que c'est intéressant. Voilà, vous voyez, d'accord. Donc je ne suis pas non plus sectaire. Il peut arriver ici ou là qu'il y ait des expérimentations qui se mènent.
À propos justement, à propos d'expérimentation, à propos d'uniformes, à propos d'enfants défavorisés, qu'est-ce que vous pensez de l'expérience des collèges Espérance banlieue qui prennent des petits groupes d'élèves de milieux très défavorisés avec des uniformes, levés du drapeau, enfin des méthodes assez traditionnelles qui ont l'air de marcher très bien, qui sont des établissements hors contrat. Vous en pensez quoi?
Vous savez, il en va de ces établissements un peu comme des établissements privés. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien par principe contre les établissements privés sous contrat, je veux dire, ni contre les établissements privés hors contrat, même si, j'ouvre une parenthèse, vous avez vu que nous adoptons par la loi la possibilité de mieux contrôler ce qui se passe dans les établissements hors contrat. Mais je referme la parenthèse.
Oui, donc justement, je n'ai rien par principe. Espérance banlieue dit, nous, notre spécificité, c'est qu'on apprend, on concentre les enfants sur les enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter. Et s'il faut respecter absolument les programmes, on ne pourra plus faire ça, il faudra parler de plein d'autres choses.
Donc je n'ai rien par principe sur ces contre ces établissements. Mais ce que je constate, c'est que dans ces établissements, en fait, c'est un autre cadre de travail qui est donné aux élèves, donc qui peut produire des effets positifs, sauf que les observateurs oublient souvent de préciser que dans ces établissements, ça va être des groupes beaucoup plus réduits de nombre d'élèves par classe, et ça va être aussi la possibilité pour l'établissement de renvoyer les élèves qui n'ont pas les résultats suffisants ou n'ont pas la discipline suffisante, etc. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que le service public de l'éducation nationale, lui, eh bien, il offre à tous les élèves de France cet accompagnement éducatif, quoi qu'il en soit. Donc, le service public de l'éducation, il a des charges qui pèsent sur lui, qui sont bien supérieures à ceux...
Mais est-ce qu'il ne devrait pas s'inspirer d'un certain nombre de méthodes qui fonctionnent ailleurs?
Non, mais bien sûr. Mais simplement, il a des charges qui sont bien supérieures. C'est un peu comme l'hôpital public par rapport à l'hôpital privé. Vous voyez, des charges supérieures à celles qui pèsent sur les établissements privés, qui font payer, etc. Et donc, la conclusion à en tirer pour les pouvoirs publics, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre le meilleur de ce qui se passe dans ces établissements hors contrat, par exemple. Et le meilleur, c'est notamment les groupes très réduits par classe, je suis bien d'accord avec vous. Donc, ça veut dire qu'il faut investir beaucoup plus dans l'éducation nationale pour qu'on ait de moins en moins d'élèves par classe. C'est ce que nous avons commencé à faire pendant ce quinquennat. Il faudra le poursuivre la fois prochaine.
Mais il ne faut pas reprendre l'uniforme.
Non, et puis surtout, encore une fois, j'ai répondu sur ce sujet. Nous, encore une fois, dans le service public de l'éducation nationale, on n'abandonne pas nos élèves. On ne les relègue pas au bout d'un moment, parce qu'on constate ils n'arrivent vraiment pas à suivre en classe de CM1. On s'en décharge ailleurs. Non, il faut au contraire, et c'est ce que nous avons fait durant ces 4 dernières années, toujours mieux lutter contre le décrochage, toujours mieux lutter en amont contre la difficulté scolaire. Juste un mot. Il y a un point de nos réalisations éducatives de ce quinquennat qui n'est quasiment jamais commenté, qui est le fameux plus de mètres que de classes à l'école primaire. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est? Depuis que nous sommes là, nous avons fait en sorte que dans les écoles primaires où il y a le plus de difficultés scolaires constatées, nous ayons un enseignant de plus que le nombre de classes. Cet enseignant surnuméraire passe de classe en classe pour faire travailler en petits groupes, justement, les élèves qui ont des difficultés en français, en mathématiques, et les leur faire rattraper très vite pour éviter qu'ils ne s'embourbent. Personne ne commente cela alors que c'est plébiscité, que ça produit des résultats chez les élèves qui sont extraordinaires. Donc, continuons cela, développons encore plus de mètres que de classes dans tous les établissements scolaires. Voilà notre projet pour la suite, contrairement à ce que propose la droite.
Il y a une question que je voudrais vous poser qui vous concerne directement. Vous avez bien réussi dans vos études, vous êtes aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, et personne n'a rien à dire à ça, parce que c'est tout à fait mérité par rapport à votre parcours. En même temps, vous êtes d'une origine sociale modeste. Je ne veux pas insulter vos parents en disant ça, mais je pense que c'est une réalité concrète. Pourquoi y a-t-il aussi peu de jeunes qui parviennent à obtenir des résultats comme les vôtres dans ces milieux sociaux, parfois d'origine étrangère, souvent même d'origine étrangère. Pourquoi sont-ils aussi peu nombreux à réussir? Est-ce que c'est la faute du système de l'éducation nationale? Est-ce que c'est la faute de la société française? Est-ce que c'est leur faute à eux parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires?
Bon, d'abord, il y en a tout de même un certain nombre. C'est pour ça que moi, je refuse de céder au discours décliniste. Vous savez, non, notre pays n'est pas en faillite, contrairement à ce que j'ai entendu à droite. Et non, l'ascenseur social n'est pas totalement bloqué non plus. En revanche, est-ce que les choses sont parfaites et satisfaisantes? Non. Et du point de vue de l'ascension sociale, en effet, force est de constater aujourd'hui que quand vous prenez les élèves des grandes écoles, vous en avez à peine 4% qui sont d'origine ouvrière. Donc c'est un vrai sujet. Et les quelques contre-exemples...
Ça s'est même aggravé.
Ça s'est même aggravé avec le temps, absolument.
Depuis ces 20 dernières années, ça s'est aggravé.
Et les quelques contre-exemples de ce que je viens de dire ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt. Moi, je refuse de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas parce que j'ai eu, en effet, la chance d'avoir un parcours scolaire, universitaire, grande école réussi, que je crois vraiment que ça a été offert à tous mes camarades de classe des quartiers nord d'Amiens. Non, je sais pertinemment que ça n'a pas été offert et qu'il y a dans notre système scolaire des dysfonctionnements qui font que, pour beaucoup d'élèves, l'horizon est bouché dès l'âge de 6 ans. Et donc, c'est contre ces dysfonctionnements-là que toutes nos réformes, je pense à l'école primaire, ce que je viens d'évoquer, mais aussi à la réforme du collège, dont on parlera peut-être, ont été adoptées pour faire en sorte que l'égalité de réussite soit véritablement envisageable pour tous les élèves.
Justement, puisque vous parlez de réforme du collège, ça nous donne aussi l'occasion de parler d'un peu Alain Juppé, qui lui est très remonté quand votre réforme du collège, et qui dit qu'il faut restaurer les classes bilingues, restaurer les langues anciennes, les classes européennes. Et il dit parce que toutes les études montrent que c'est justement un moyen pour les enfants des milieux défavorisés de progresser.
Jack Lang dit la même chose.
Ouais, et Jack Lang dit d'ailleurs la même chose.
Il ne faut pas que la gauche que fuit une... constamment l'excellence, parce que c'est l'excellence qui permet à la majorité de progresser.
C'est quoi l'excellence ?
Bah, demandez à Jack Lang, c'était les classes bilingues en l'occurrence.
Si l'excellence, non mais soyons clairs, je vous pose une question de fond parce que moi j'aime bien les débats de fond. Si l'excellence, c'est la reproduction d'une espèce d'élitisme dynastique qui se transmet de,
famille. Il dit le contraire. Il dit que ça
de
permet...
parents en élèves. Si c'est ça, alors ce qui fonctionnait jusqu'à présent dans les collèges avant que nous les réformions, alors c'était très bien, il fallait les laisser fonctionner comme ça. Et tant pis pour les 1 élève sur 5 qui sortaient du collège sans maîtriser les fondamentaux. Après tout, qu'en a-t-on à faire? Ouais, c'est pas ma vision de la société.
C'est un peu caricatural, ça.
Ma vision de la société et de l'excellence. Et de l'excellence, car moi je crois à l'excellence. C'est que pour que nous ayons une véritable excellence à la fin du parcours scolaire, il faut avoir veillé pendant tout le parcours scolaire à constituer un vivier large et diversifié dans lequel on puisera cette excellence. Large et diversifié, ça veut dire pas toujours les mêmes, pas toujours ceux qu'à l'âge de 11 ans, on aura identifié comme étant meilleurs que les autres. Non, parce qu'à l'âge de 11 ans, mesdames et messieurs, et je suis sûre que certains nous écoutent derrière leur poste de télévision, vous avez peut-être des enfants de 11 ans, vous savez très bien qu'un enfant peut trébucher à 11 ans. Est-ce que ça ne vaut pas la peine, malgré tout, de continuer à investir en lui, pareillement que dans les autres élèves ?
Mais pourquoi supprimer ce qui donnait une occasion aux enfants de 11 ans d'avancer, ça faisait mal à personne.
Mais de quoi parlons-nous ? Nous parlons donc des classes bilingues, oui, des options latin, etc. Vous le savez, n'est-ce pas? Elles étaient jusqu'à présent utilisées, elles bénéficiaient à 15% d'élèves en moyenne si on prend l'ensemble de ces classes et de ces options. 15%, ça veut dire que les 85% d'élèves autres au collège n'en bénéficiaient pas. Si vous considérez que c'est merveilleux d'avoir...
Mais ça permettait notamment de milieux défavorisés, c'est vraiment les études qu'ils montrent. Hein.
Non mais... Arrêtons. D'abord, c'est faux. Enfin, je veux dire, vous allez prendre une étude sociologique de la composition de ces classes, de ces sections et de ces options. Il y avait des exceptions, en effet, qui faisaient que des élèves d'origine populaire arrivaient à accéder à ces options. Enfin, comme l'immense majorité des élèves des classes populaires ignoraient l'existence de ces options et de ces classes, laissez-moi vous dire qu'ils n'en faisaient pas partie. Mais enfin, peu importe, car moi, je n'en ai pas après les élèves de classes plus favorisées. Honnêtement, ils m'intéressent tout autant. Et je sais que parmi les décrocheurs, il y a aussi des élèves de classes favorisées. Donc, arrêtez de me faire passer pour sectaire sur ce point. Mais si on reprend, donc, avant la réforme du collège, le latin, le grec, le fait de pratiquer deux langues le plus précocement possible était réservé à 15% d'élèves. Après la réforme du collège, ce que vous ne dites évidemment jamais, c'est offert à tous les collégiens de France. Pourquoi vous ne considérez pas cela comme un progrès ? Pourquoi ?
Mais vous n'avez pas étendu les classes bilingues et le latin et
si.
À toutes les classes.
Mais enfin, Monsieur Brézé, je suis désolée. Moi, j'étais encore hier avec une professeure de lettres classiques au collège qui m'expliquait comment, d'ailleurs, y compris sur un ton critique, hein, qui m'expliquait comment la réforme du collège avait fait exploser sa charge de travail cette année. Si vraiment, comme professeure de lettres classiques, elle n'avait plus d'élèves de latin et de grec devant elle, est-ce que sa charge de travail aurait explosé ? Elle explose parce que, grâce à ce que nous avons mis en place, par exemple, s'agissant du latin et grec, des enseignements interdisciplinaires qui servent de sas pour faire entrer les élèves dans l'amour du latin et du grec avant de leur donner la possibilité de continuer plus loin. Grâce à cela, vous avez aujourd'hui dans les collèges, et je vous invite à aller voir, enfin, avant d'en parler, beaucoup plus de collégiens qui commencent à découvrir le latin et le grec et qui, je l'espère, continueront à en faire. Même chose pour la langue vivante, pardonnez-moi, qui, grâce à notre réforme du collège, est désormais apprise un an plus tôt. C'est-à-dire qu'on apprend désormais la langue vivante 1 en CP et la langue vivante 2 en 5e, ce qui signifie que, pour revenir au collège, sur leur scolarité, les élèves font beaucoup plus de langue vivante.
Il nous reste deux minutes. Une question qui revient sans cesse, c'est celle de l'orthographe. Alors, votre ministère vient de publier une étude qui montre qu'il y a encore plus de fautes d'orthographe maintenant qu'il y a 10 ans sur la même dictée, sur le même texte, et que ça touche d'ailleurs toutes les classes sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On n'y arrive plus en France à enseigner l'orthographe ?
Je vais répondre, mais c'est intéressant votre commentaire et que ça touche d'ailleurs toutes les classes sociales. Une fois de plus, je le dis, je ne suis pas là pour m'ériger en défenseuse d'une classe sociale contre les autres. C'est pas vrai. Je pense que la difficulté scolaire, honnêtement, elle se vit par les familles, quelles que soient les classes sociales, de la même façon. Et que donc, notre système doit veiller surtout à ne pas la laisser se creuser cette difficulté. Alors, sur l'orthographe, concrètement, ça fait 20 ans, en effet, que la même dictée est donnée à des élèves et que on voit que les résultats, en effet, se dégradent. Et moi, j'ai souhaité, puisque vous le savez, nous avons changé les programmes de la scolarité obligatoire, y compris sur la question du français, pour faire en sorte qu'on apprenne et qu'on maîtrise mieux le français. Je vous invite à lire. J'ai souhaité que, avant que les nouveaux programmes soient introduits, ils l'ont été en cette rentrée 2016, on puisse évaluer quel était le niveau des élèves en orthographe, pour qu'ensuite, par exemple, dans 5 ans, on évaluera à nouveau quel est le niveau en orthographe basé sur nos nouveaux programmes.
Et pourquoi on n'y arrive pas ? C'est ça
donc,
qui est terrible.
La réponse à votre question, c'est que l'évaluation que nous avons faite donc juste avant que les nouveaux programmes entrent en vigueur et qui, elle, porte sur les anciens programmes de 2008 qui avaient été adoptés par la majorité précédente, qui étaient unanimement critiqués par les enseignants parce que trop lourds, parce que n'entrant pas dans les détails nécessaires, parce que doublonnant, l'évaluation a montré que le niveau des élèves en orthographe était très bas. Je mets ma main à couper que la prochaine évaluation du même type, si du moins tout le monde la laisse se faire. Et je vous invite à être très vigilant sur cette question. Que la prochaine évaluation du même type montrera que grâce à nos programmes entrés en vigueur en 2016, les élèves maîtrisent mieux l'orthographe.
Merci Najat Vallaud-Belkacem. Il faut que je sois bon en arithmétique. On doit finir à 13h25. Il est 13h24 et 55 secondes. Merci d'avoir été avec nous dans ce grand jury qui sera de nouveau diffusé sur LCI à 18h30 cet après-midi. Bon après-midi à tous.